La danse des mots, Yvan Amar.
Bonjour et bienvenue dans la danse des mots qui est à Avignon pour le dernier jour. On peut le regretter un petit peu, mais en même temps, la moisson a été excellente et elle n'est pas terminée. Bien accueillis que nous sommes à ce bel hôtel de l'Europe où le studio d'RFI s'est installé. Et aujourd'hui, comme les autres jours, un certain nombre d'échos de deux spectacles, l'un du In et l'autre du Off. Le spectacle du Off, c'est l'influence de l'odeur des croissants chauds sur la bonté humaine, avec Hervé Dubourgeal et Jean-Louis Cassarino, qu'on peut voir tous les jours au Théâtre Barretta à 14h30. Et Hervé Dubourgeal est ici avec nous pour nous en parler dans quelques instants. Et auparavant, nous aurons parlé de « Et pourquoi moi, je dois parler comme toi ?» un spectacle proposé par Anouk Grimbert et Nicolas Repac, qu'on peut voir ce soir, demain, après-demain, à la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon, dans le cadre du festival, puisque c'est un programme qui fait partie de ce qu'on appelle le IN. La danse des mots, donc. Bonjour Anouk Grimbert, bonjour. Nicolas Repac. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous pour nous parler de ce spectacle tout à fait étonnant que j'ai entendu hier et qui s'articule autour de ce qu'on peut appeler les textes bruts, si on prend cette expression qui calque l'expression art brut. Alors Anouk Grimbert, dites-nous un petit peu d'où viennent ces textes que vous proposez.
Ces textes, je les ai découverts principalement au musée d'art brut de Lausanne, qui est l'antre...
Le grand musée d'art brut.
Ouais. Ouais.
Il y en a un autre important qui est la Halle Saint-Pierre à Paris, ouais, où se succèdent des expositions, mais il n'y a pas de collection permanente, alors qu'à Lausanne, c'est différent.
Et Dubuffet, qui est le pape de l'art brut, qui a réuni toutes les collections d'œuvres graphiques, il a aussi, pendant des années et des années, collecté des textes, mais qui sont restés très confidentiels. D'abord, c'est des textes qui ont été écrits par des gens qui ont été enfermés contre leur gré. Parfois, ils ne savaient pas pourquoi. Parfois, ils ont passé 40 années de leur vie enfermés. C'était une époque où un mari pouvait faire enfermer sa femme parce qu'elle avait mal fait la vaisselle. Et ces textes d'art brut, ils ont comme fil conducteur, ils ont été écrits par des gens qui ne connaissaient rien à l'art, rien à la culture. C'était des gens qui juste voulaient qu'on les oublie pas, qu'on se souvienne d'eux. C'est des textes qui étaient envoyés aux familles, mais les familles les ont jamais reçus. Ils étaient interceptés par les services médicaux qui considéraient que ces gens d'abord parlaient mal. Et en fait, ils parlaient pas mal, ils parlaient libre.
Bah, puisque vous dites à nos grimbères justement qu'ils parlaient mal, je vous propose d'écouter un premier extrait dans une langue très différente de la langue qu'on considère comme la langue ordinaire.
Monsieur Baybeller, Samuel, Ernest, malade, ottomane, Sophingienne, Sophange, jeune Jean, Sieur Vintan, les docteurs, veuillez aider me délivrance à des mes yeux du bleu larsanguique, veuillez aider me délivrance à des ma respiradée, ma pensadée, ma voix xadée, de tout bleu et à distance à travers les fenêtres et jusqu'aux habitations que l'on voit à distance de tous les bleus. Cela donne lieu à des persécutions de mos, cela exténuade. Il faut respirer. J'ai le droit de ressusciter. Je suis normal. Il aurait fallu le réaliser. Agréez, Sieur Winter, le docteur, mes salutations. P.S. Si je n'avais pas au moins été pseudonyme, j'aurais été officiel. Depuis le canton de Genève, on nous autorisait à rester existants. Mais depuis Péreux, quelque obèse sois-je. Depuis la coupablée, flaguée, lissée, commise par demoiselle Dessous-Slavis doctoresse, ce n'est plus la même chose. Même notre avènement ottoman s'y trouvera. Nous nous trouvons sans espérance de salut. C'est regrettable pour tout ce que cela concerne. Je me suis trouvée chassadée pendant 5 ans de tout circulatement. Il paraît que cela a donné lieu au trompionge. C'est effrayant, Tadic. Cette demoiselle des sous-slavistes, doctoresse, a trompé, utopié la confiance de tous au téléphonement et réceptisé tous ceux qu'elle est parvenue à atteindre. Et je ne sais pas comment si elle a communiqué. Je ne sais pas comment si c'est exact ce que j'écrivais à son sujet ou bien si c'est vrai qu'elle voulait m'en prendre à toutes ces questions bulicades, brulicades. Je vous assure, je ne crois pas en cette instruction civique. Sachez que cela m'a effrayée, toutes ces pensadées de malades et de docteurs par leur blouisme. C'est pourquoi je commande délivrance de toute espèce, vu que j'ai un pseudonyme. Je ne supporte pas ce blouisme. On a voulu se servir du blou dans mes yeux et du blouisme à distance pour m'instruire, pour m'apprendre à parler, vu ce pseudonyme avortonique qui m'a gardé muet d'ignorancie. Il faut l'ôter.
Anouk Grimbert, on a bien réalisé l'incroyable liberté de ce texte qui commence en accord avec la langue la plus standard et qui de temps en temps prend des libertés étonnantes. C'est difficile à dire. Est-ce que c'est un plaisir pour la comédienne que vous êtes ?
Ça a été un putain de casse-tête de l'apprendre. J'ai mis à peu près 3 mois, parce qu'en fait, le cerveau a beaucoup de mal à apprendre ce qui n'a pas de sens. Et,
donc, il faut retrouver le sens pour que
oui,
ça. Et,
oui, c'est-à-dire, ça il fallait
fixe.
Pas, il fallait que je sois pas dans l'exercice d'une comédienne qui dit des choses folles, mais que je retrouve l'évidence de sa pensée. Et je crois que je sais que c'est un homme qui savait parfaitement bien parler, comme vous et moi. Simplement, il parle comme ça pour être encore plus précis. Et précis par rapport aux sensations qu'il a.
Donc il faut réinventer le sens, retrouver le sens de ce texte pour le mémoriser d'une certaine façon.
Oui, et surtout, il faut pas faire un numéro d'acteur, il faut être au plus près de ce qu'il voulait dire et de ce qui le débordait. Et qu'il cherchait à contenir, parce que tous ces gens qui étaient pris pour fous voulaient ne pas paraître fous, parce que s'ils paraissaient fous, ils restaient à vide dans ces endroits. Ils avaient plus rien à perdre, et donc enfin très souvent les artistes dits officiels ou reconnus, ils se grattent leur propre folie pour trouver une liberté dans le langage. Et eux, on avait l'impression qu'ils se mettaient un couvercle sur leur prétendue folie pour paraître normaux. Je crois que une des premières façons de rendre de donner une place dans la société aux gens et de leur dire voilà, tu fais partie du monde, c'est de leur apprendre à parler normalement. Et il y a des gens qui peuvent pas.
Alors Anouk Grimbert, il y a toute une série de textes que vous donnez. Est-ce que chaque fois vous avez essayé de trouver une allure particulière, que ça soit une prosodie, que ça soit un timbre, un placement de la voix, pour donner comme une silhouette à la personne que vous incarnez?
Ben, vous savez, quand on joue, c'est pas qu'on cherche une allure, comme vous dites, c'est que le texte peu à peu rentre en vous et c'est lui qui vous donne l'allure. Mais c'est pas vous qui l'a cherché comme ça. On fait pas son malin. Et en plus, on a travaillé vraiment ensemble, Nicolas et moi. C'était pas d'un côté le musicien et puis moi l'interprétation. Il se mêlait de comment je le disais, je me mêlais de comment il jouait. Et ce qu'on a cherché tout le temps, c'est à être...
Est-ce que le timbre de l'un a influé sur le timbre de l'autre, Nicolas Repas? Vous êtes polyinstrumentiste, vous êtes musicien, compositeur, arrangeur, et là vous êtes sur scène avec parfois une sansa, parfois une guitare, parfois des percussions.
Comment faire avec ces textes, avec des gens qui sont privés de liberté, enfermés en eux-mêmes ou dans un établissement? On peut pas, enfin, pour mettre de la musique sur ces mots-là. Je pouvais pas faire des choses, mettant en avant la virtuosité, enfin, je sais pas pour
prendre des exemples. Il fallait que ce soit pas anecdotique.
Il fallait que ce soit près de leur démarche, c'est-à-dire d'où l'idée d'utiliser des petits instruments qui sont tous limités,
des instruments qui parlent parfois. Vous avez une guimbarde à un moment. La guimbarde n'est pas si loin de la voix.
Oui, puis c'est vraiment quelques harmoniques naturelles dans ce petit instrument et c'est un instrument de transe qui marche bien.
Je vous propose d'écouter justement un deuxième exemple de ce spectacle de Nicolas Repac et d'Anouk Grimbert.
Parler de mon pauvre corps qui est ma honte et qui rend des matières infectes en grande quantité incroyable que j'estime à 3 mètres cubes par jour. Cela va vous paraître de la folie. En effet, où passe toute cette marchandise dont je ne vois qu'une faible partie liquide et autre? Ensuite, où me rendre pendant toute l'éternité avec cette infirmité? On me tire dans des endroits où il n'y a pas de place, on ne peut pas passer. Nous ne savons pas où nous sommes. Tout n'est qu'apparence et illusion. Il y a longtemps que tous les miens sont morts et remords. Ceux qui viennent me voir ne sont pas même des fantômes que des apparences. Je ne comprends rien à ce qui se passe. Vous vous trompez, ce n'est pas moi qui suis là. Je ne vois jamais les mêmes choses. Il y a des siècles que ça dure, il n'y a plus de place dans l'immensité. Comme corps, je traîne quelque chose d'immonde qui souille tout ce qui en approche. Donc, je voudrais pouvoir me sauver, mais je n'ai pas la moindre place où me réfugier. Je vais, je viens, sans savoir comment. Je change de place. C'est le hasard qui me jette tantôt là et tantôt ici. Il est donc impossible que vous m'ayez sous votre main. Laissez-moi errer. Partout où je sens que je suis de trop. Je suis certaine que souvent vous croyez m'avoir et qu'il n'en est rien. Ne faites plus prendre votre cruche de lait. À moi toute seule, j'en absorberai autant que le reste de l'univers et je n'en veux plus. Je suis dans un endroit impossible à décrire. Je me demande comment je puis en sortir et cependant, je change de place. Pourquoi donc mon existence se prolonge-t-elle? Toujours souffrir? Jamais mourir? Voilà donc mon but? Si je n'avais que mon âme immortelle et ce triste et affreux corps dont je ne puis me séparer?
Toujours souffrir, toujours mourir, c'est dans Racine déjà. Est-ce que Anouk Grimbert, vous savez d'où vient le texte dont on vient d'entendre un extrait? Comment il a été écrit?
Non, c'est un auteur inconnu, on ne sait même pas son nom, on ne sait rien, rien.
Donc il y a un certain nombre de textes qui ont été écrits par ceux qu'on appelait des fous et qui étaient dans ce qu'on appelait à l'époque des asiles, même si aujourd'hui les noms ont quand même un peu changé, et même un peu les institutions. Vous travaillez là-dessus, en même temps que vous proposez quelques textes d'auteurs bien connus. Il y a une série d'interrogations magnifiques d'Emily Dickinson, et puis il y a deux petits textes d'Henri Michaud. Ça vous paraît être tout à fait conjoint, ces textes-là?
Ben, c'est-à-dire, quand j'ai travaillé sur le montage des textes, qui à l'origine devaient être que des textes d'art brut, ça m'a semblé, à vrai dire, naturel de réunir des artistes qui avaient été de façon artificielle séparés entre ceux qui savent écrire et ceux qui savent pas écrire, ceux qui savent penser droit et qui s'exercent à penser en zigzag.
Et qui parfois, de façon artificielle, avaient été chercher la folie.
Exactement.
On pense à Michaud avec ses paradis artificiels, justement.
Exactement, exactement. Et puis, alors c'est pas, moi quand je suis allée, quand j'ai retrouvé dans ma mémoire Emily Dickinson ou Michaud, c'est des auteurs qui sont en moi depuis des années, donc c'est pas que j'ai voulu les réunir, c'est que ça s'est fait de façon très organique comme ça, et je trouvais Moi, j'avais envie que ces auteurs d'art brut soient reconnus pour leur valeur littéraire et soient rattachés à l'univers de la littérature. Et soit, parce que pour l'instant, ils sont, c'est une littérature qui est absolument pas connue, si ce n'est ou par les psychiatres ou par les spécialistes d'art brut.
Et quand vous parlez de valeur littéraire, c'est tout à fait évident. Il y a des textes d'une beauté absolument poignante à la fin, quand vous parlez, par exemple, de ce cœur gourd, presque joli, et que vous dites le paradis n'est ni une nostalgie ni une récompense, on se dit en effet c'est de la grande littérature.
Alors celui dont vous parlez, le paradis, c'est un auteur, c'est un des plus grands poètes grecs. Mais vous voyez, ça me fait très très plaisir que vous ayez pas su s'il était fou ou pas fou, parce qu'en fait je crois.
Bah, c'est tout le jeu de ce que vous proposez justement, où les limites ne sont pas discernables.
Mais
on
parce
ne
que
sait
je,
pas justement
mais
à qui on a affaire.
Je pense que dans la réalité, quand l'art il est vrai, quand c'est pas un coup, quand c'est pas quand on écrit pas pour être édité, mais qu'on écrit parce que ça vous est essentiel, la racine elle est la même, et que qu'on soit interné ou qu'on soit célébré, il y a quelque chose, la pulsation de vie, le besoin de se tirer de la prison de soi.
Oui, comme si parfois le langage de la folie était une voie directe vers la vérité. Ça fait penser à Ophélie dans Hamlet qui devient folle, quoi.
Mais moi,
et dont on a l'impression qu'elle résume la pièce.
Oui, je pense qu'il y a un lien direct entre la luminosité de ces gens et le pourquoi ils ont été enfermés. Je crois que la société peut pas encaisser certaines lumières.
Ben merci beaucoup Anouk Grimbert, merci beaucoup Nicolas Repac d'être venu nous parler de ce beau spectacle qui se donne encore donc ce soir, demain, après-demain à la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon.
Au bord de l'eau, un pigeon les fins. Mais quelle drôle de fin. Sur la plage, échoue sans cesse, jeté par les vagues, échoue sans cesse. Là-bas, à présent, l'orage dort sous la grève. Tout corps et tout, le sable s'élève. Puis c'est l'oiseau foudroyé dans le creux de mes pas. Reposer, viens là. Le soleil perce l'oiseau de ses raides et doux rayons comme des aiguilles et une poupée vautour. Le soleil perce l'oiseau.
Dans la danse des mots, c'est Feu Chatterton qui nous aide à passer à l'autre spectacle dont on va parler, l'influence de l'odeur des croissants chauds sur la bonté humaine. Merci beaucoup Hervé Dubourgeal. Je rappelle qu'avec Jean-Louis Casarino, vous présentez ce spectacle tous les jours au théâtre Barretta. C'est à 14h15. C'est très différent du spectacle dont on vient de parler. Et pourtant, il y a peut-être quelque chose de commun parce que c'est un spectacle qui pose des questions au public et qui lui demande sa position par rapport à des interrogations philosophiques, morales, disons éthiques. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition
votre travail? Oui, c'est tout à fait le sujet du texte de Ruben Augier, qui a le même type, l'influence de l'odeur des croissants chauds sur la bonté humaine, qui est un essai de philosophie morale. Et de philosophie qu'on appelle expérimentale, c'est-à-dire au lieu d'articuler de façon, européenne des concepts, comme chez Kant, qui est dans la faculté de juger par exemple, ou la raison pratique, on part d'expériences de pensée qui sont des petites fictions et à partir desquelles on réfléchit pour savoir quelles sont les intuitions morales qui dominent dans telle situation ou dans telle autre. Et c'est à partir de ces petites fictions que je me suis dit qu'on pouvait faire un spectacle puisqu'on réfléchit sur des expériences de pensée particulières.
Eh bien, puisque vous parlez de ces petites fictions, je vous propose tout de suite d'en écouter l'extrait de celle que vous présentez.
Imaginez un canot de sauvetage, j'ai dans une tempête, en pleine mer. À son bord, il y a 4 hommes.
1, 2, 3, 4.
Et un chien. Non, je crois pas qu'on va faire ça, ça va pas marcher. Couchez-vous. Je suis désolé. Imaginez un canot de sauvetage pris dans une tempête en pleine mer. À son bord, il y a 4 hommes et un chien. Il faut délester le canot. Alors tous les 5 vont mourir si aucun homme n'accepte d'être sacrifié ou si le chien n'est pas jeté par-dessus bord. Est-il moralement permis de jeter le chien à la mer simplement parce que c'est un chien, sans autre argument? Eh bien, c'est à vous. Alors, on jette le chien?
Oui.
À qui jette le chien? Levez la main, ceux qui jettent le chien. Ah oui, monsieur, parce que...
Parce que c'est un chien.
Parce que c'est un chien.
Oui, oui. Ça vaut ce que ça vaut.
Un chien est un chien, merci monsieur.
C'est un chien. On nous l'avait jamais fait.
Oui, c'est pas faux. Mais vous préférez jeter le chien plutôt qu'un homme, c'est ça que vous voulez dire.
Alors, la salle n'est pas bien grande au théâtre Barretta. On rit beaucoup, on vient de s'en apercevoir. Il n'empêche que Jean-Louis Casarino et vous, Hervé Dubourjal, vous prenez vraiment à témoin le public pour lui demander, dans telle situation, qu'est-ce qu'on fait?
Oui, c'est un peu le cas parce que, en fait, la philosophie expérimentale fait que les questions morales sont expérimentées sur des gens. Quantifié. Donc, et on arrive à un certain type de résultat. Donc on s'est dit, puisque dans les expériences qui sont faites, des gens sont interrogés, nous on va interroger directement le public pour faire écho, disons, à la façon dont ce travail philosophique se pratique.
Est-ce que les réponses du public influent beaucoup sur la suite du spectacle? Est-ce qu'il y a du jeu par rapport à ça? Vous avez un fil,
oui.
Vous êtes obligé de le tenir. Néanmoins, est-ce qu'il y a une possibilité d'oscillation par rapport à ce qui est prévu?
Oui, il arrive qu'on propose quelques variations, mais ce qu'on réalise, c'est que souvent les interventions du public sont là pour trouver une échappatoire. Quand on dit est-ce qu'il faut plutôt sur le chien et sur les hommes, c'est facile. Mais il y a d'autres expériences de pensée qui sont un peu plus complexes et les réponses sont quelquefois poétiques, quelquefois ludiques, quelquefois pour faire rire. Mais
et parfois inattendues. Le jour où j'y étais, il y a un moment où vous vous demandez si on peut faire tomber un gros homme sur une voie,
oui,
pour arrêter un train et quelqu'un dit et si c'est une femme? Mais il faut qu'elle soit grosse. Et si c'est une femme enceinte?
Oui.
Et là, j'ai bien senti que vous n'aviez pas prévu le coup.
Oui, c'est vrai.
Il y a eu de
vrai.
La surprise.
Oui, non, c'est vrai. Oui, oui,
le monde a rigolé.
Bien sûr. Non, c'est vrai. On est interpellé. C'est-à-dire, ce qui est curieux, si vous voulez, dans cette affaire, c'est que c'est une affaire très sérieuse, philosophique. Ça pose des questions éthiques. Ruben Ogien lui-même avait des positions très très formalisées sur ces questions-là. Et en même temps, les fictions ont une espèce de qualité assez comique. Donc, on joue un peu sur les deux, disons, pour faire passer de façon assez drôle, assez légère, un propos qui, somme toute, engage les gens dans leur responsabilité morale, éthique, et non seulement les gens comme individus, mais aussi la société elle-même, quoi, sur les décisions qui sont prises. Donc ça a un certain poids d'un côté.
C'est peut-être un petit peu rapide de dire que c'est un spectacle socratique, mais en même temps, il y a quelque chose qui a un rapport avec ces séries d'interrogations qui mettent l'interlocuteur devant ses contradictions.
Oui, sauf que dans l'idée socratique de maïotique, on veut amener absolument l'interlocuteur à comprendre qu'il ne comprend pas ou à admettre qu'il ne sait pas.
Oui, parce que c'est pas éthique. Alors que là, oui. dans votre propos à vous, ce sont des questions éthiques, alors que bon, chez Socrate, c'est plus large, disons.
Oui, c'est ça. Oui, c'est pas exactement le même.
Non, mais il y a quand même un cheminement. Vous emmenez le spectateur, c'est-à-dire l'auditeur, sur un chemin logique que vous lui proposez et qu'il n'aurait pas forcément envisagé tout seul.
Oui, ça, c'est tout à fait vrai. Ce qui est très étonnant, c'est que bon, c'est un spectacle qui a aussi une certaine aridité, je trouve, et ça marche très très bien auprès des lycéens et des jeunes, par exemple, parce qu'ils rentrent tout à fait dans l'affaire. Et quand on l'a joué, quand on l'a créé à Paris, au théâtre de la Reine Blanche, 2 heures après la fin du spectacle, au café, ils continuent à discuter, à chercher des solutions, etc. Donc ça engageait, ça les engageait dans une réflexion qu'il prolongeait après la représentation elle-même.
Est-ce que parfois ça peut provoquer un malaise chez le spectateur avec des gens qui se disent « Mais oui, en effet, que ferais-je dans telle et telle situation? Je serais bloqué, je ne saurais pas. »
Oui, ça arrive. Du reste, le spectacle est très différent d'un soir à l'autre parce que les réactions du public sont très différentes d'un soir à l'autre et ça entraîne chez nous des différences de comportement importantes. Donc, on ne sait jamais très bien ce qui va se passer. C'est-à-dire que le troisième personnage, le public, changeant tous les jours, eh ben, il nous fait des propositions nouvelles et ça change un peu la façon dont on comprend les choses nous-mêmes et dont on les joue ou dont on les anticipe plus ou moins. On veut anticiper quelque chose parce qu'on a une surprise la veille. Le lendemain, c'est différent. On est un peu pris de court, on essaye d'inventer autre chose. Enfin voilà, donc c'est un spectacle qui se fait vraiment en se faisant, quoi. C'est le côté un peu jazzy que j'aime bien du spectacle.
Parce qu'il y a un peu d'improvisation.
Oui, oui, parce qu'on le fait en le faisant. Et c'est, on le fait au présent, vraiment. Donc, avec le public tel qu'il est, qui est appelé à réagir et qui souvent nous étonne.
Avec un rire et une relative bonne humeur qui semble indispensable, justement, pour que ça ne soit pas trop grinçant.
Bah pour que ce
parce
soit
que
pas trop
pourrait.
Rébarbatif.
Oui.
Oui, surtout pour que ce soit pas trop rébarbatif, parce que c'est vrai qu'il y a des questions qu'on pose, comme les questions de la GPA, comme les questions de l'inceste.
La GPA, c'est-à-dire la gestation par autrui.
Sont des questions quand même un peu graves, un peu importantes, et donc de la façon dont on les traite permet de rentrer dans la réflexion en essayant de retirer ses a priori et sans que ça paraisse insurmontable.
Oui, et vous parlez donc de ces questions de bioéthique. Certaines sont extrêmement actuelles, et il y en a d'autres que vous envisagez dans le spectacle qui sont, sinon inactuelles, en tout cas, qui étaient déjà là dans le passé. Il y a un petit peu de tout. Est-ce qu'on doit sacrifier quelqu'un pour sauver quelqu'un d'autre?
Oui, oui. Bah, disons qu'il y a des questions qui ont une certaine permanence, c'est vrai. Hein. On est aussi dans une tradition philosophique, donc il y a des questions qui ont une certaine permanence, et puis des questions qui sont très actuelles, parce que elles sont liées, comme vous dites, à la bioéthique ou à des pratiques tout à fait contemporaines, et donc ça repose les questions un peu autrement.
Alors, Hervé Dubourgeal, tout ce texte, il est tiré d'un ouvrage de Ruven Nogien, qui est donc un philosophe qui a disparu assez récemment. Ça n'a pas été écrit pour le théâtre.
Non, ça n'a pas été écrit pour le théâtre. Moi, je suis très passionné par la théorie depuis longtemps et je voulais absolument faire un texte de théâtre, enfin à partir d'un texte philosophique, et puis bon, je ne trouvais pas trop la matière. Il y a les dialogues de Platon, mais bon, ça me paraissait pas, je voyais pas trop comment je les mettais.
C'est faussement facile, les dialogues de Platon. C'est-à-dire qu'on entre là-dedans, on a l'impression de tout comprendre, et au bout de 10 pages, on se dit, fausse route, j'ai rien compris, c'est beaucoup plus compliqué que ce que je pensais. C'est plus difficile au théâtre, parce que c'est amené à une fausse compréhension. Absolument. Alors que là, on met vraiment le spectateur, devant un choix moral ou un choix éthique.
Oui, mais surtout quand j'ai lu le texte, j'ai vu que il y avait l'histoire des expériences de pensée, donc qui sont des petites fictions. Donc du coup,
qu'est-ce que vous appelez expérience de pensée ?
Une expérience de pensée, c'est une petite histoire qui, à partir de laquelle, on va réfléchir sur la façon dont on se comporte quand on a, par exemple, il y a un train qui roule, il va écraser 5 personnes, il y a un levier d'aiguillage. Si on l'actionne, le train est dévié vers une voie secondaire, mais si on le dévie, on tue une personne sur cette voie secondaire. Donc la question, c'est, est-ce que je laisse le train filer et écraser les 5 personnes, ou est-ce que j'actionne le levier pour en écraser une? Mais dans le deuxième cas, je fais quelque chose. Bon, donc voilà le type de question qui est posée. Donc tout de suite, on visualise quelque chose. Nous, en plus, on a fait des petits schémas sur des paperboards, hein, puisque en fait, on commence comme une conférence, un peu comme deux conférenciers. Donc on a fait des petits schémas sur des paperboards en vidéo qui permettent de voir un peu les expériences dont on parle. Et c'est à partir de là, évidemment, qu'on fait réfléchir le public. Moi, quand j'ai lu ça, chez Rivenogien, je me suis dit, mais c'est tout à fait parfait pour nous, quoi. Hein, on peut tout à fait faire un spectacle avec ça.
Merci beaucoup, Hervé Dubourgeal, pour toute cette arithmétique philosophique. Je rappelle que cette influence de l'odeur des croissants chauds sur la bonté humaine, on peut la voir au théâtre Barretta à 14h15 à Avignon. De même que Et pourquoi moi, je dois parler comme toi, on peut le voir à la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignons ce soir, demain, après-demain. Merci d'avoir été dans La Danse des Mots, une émission proposée par le réseau Canopé et par RFI. Véronique Durand, Lucie Bouteloup, Philippe Nadel, Yvan Amard.